VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. En République démocratique du Congo, un opposant accusé d'outrage au président Félix Tshisekedi a obtenu la libération provisoire après plus d'une semaine de détention en Ituri, province du nord-est du pays. Le point avec Eddy Sango.
Luc Malembe, porte-parole de la Mouka dans la province de l'Ituri, a lui-même annoncé hier sa remise en liberté provisoire. L'opposant indique avoir été libéré sous caution. Sa famille politique a confirmé sa libération dans une déclaration sur Twitter. Ses proches de Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle, placent sa détention dans le cadre d'un règlement des comptes politiques. Il a été arrêté le 24 janvier à Bunia et accusé d'outrage au chef de l'État après des déclarations faites à la presse lors du premier anniversaire de l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. Il a qualifié l'année des gâchis alors que le peuple attendait une vraie alternance. L'opposant a affirmé ne pas avoir d'espoir pour le pays dirigé par une coalition avec une majorité des partisans de l'ancien président Joseph Kabila dans toutes les institutions. Le président Tshisekedi a promis d'œuvrer pour le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales au cours de son mandat à la tête du pays.
République centrafricaine, 6 février 2019, 6 février 2020. Un an déjà pour l'accord de paix et de réconciliation signé entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés après des négociations à Khartoum au Soudan. Un premier anniversaire qui a été marqué ce jeudi par une grande rencontre de différents acteurs à Bangui, la capitale centrafricaine. Qu'est-ce qui a changé depuis la signature de cet accord de Bangui? La réponse de notre correspondant Freeman Sipila.
L'accord signé le 6 février 2019 prévoit d'une part un gouvernement inclusif, la dissolution des groupes armés, la réinsertion de leurs membres dans les corps en uniforme et la vie civile, d'autre part le désarmement des forces négatives. Depuis sa signature, au moins 70% des cas de violation ont été documentés par la MINUSCA et les principaux auteurs sont les groupes armés. Dr Arnaud Yaliki, enseignant-chercheur à l'université de Bangui, a écrit un ouvrage sur cet accord.
D'une manière globale, il y a des avancées, mais beaucoup de défis restent à relever. Sur le plan pratique, les défis qui restent à être relevés, c'est qu'il y a certains acteurs de cet accord qui ne respectent pas leurs engagements.
Pour l'homme de la rue, un an après, des progrès ont été enregistrés dans certains domaines, mais il reste encore beaucoup à faire.
On assistait à des violences, on assistait à beaucoup d'actes que les Centrafricains déploraient. Et donc aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a eu une diminution de la violence et tout cela à cause de l'accord.
C'est grâce à cet accord aujourd'hui que les deux anciens présidents sont revenus au pays.
Cet accord-là a enregistré beaucoup des irrégularités. C'est une bonne stratégie que le gouvernement avait mis en place parce que ça les contraint à ne pas faire des exactions comme auparavant.
Se félicitant des progrès réalisés, le gouvernement insiste sur le respect des clauses de cet accord politique. Ange-Maxime Kazagui, porte-parole du gouvernement.
Il faut donc que chacun, au moment où nous faisons le point sur cet accord, fasse à ses engagements, soit conséquent avec sa signature afin que ensemble, en tout cas pour ceux qui réellement souhaite la paix, la réconciliation nationale dans ce pays, que nous allions vers celle-là.
Dans un message vidéo, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, note lui aussi des progrès réels, mais il met en garde contre la poursuite des violences.
Mais malgré ces progrès encourageants, je reste préoccupé par certains retards dans la mise en œuvre et je condamne fermement la poursuite des violences. J'appelle donc tous les signataires à respecter leurs engagements.
L'Union africaine et la CEAC se félicitent des efforts entrepris par les partis signataires dans la mise en œuvre de l'accord et réaffirment leur soutien à cette entente politique. De leur côté, les États-Unis d'Amérique réaffirment également leur soutien à l'accord. Je tiens à rassurer le peuple centrafricain que les États-Unis seront toujours aux côtés de ceux qui choisissent la paix, a déclaré Mme Lucie Tamlin, ambassadrice américaine en Centrafrique. Plusieurs principaux chefs des groupes armés sont dans la capitale à l'occasion de la célébration du l'an 1 de cet accord de paix. Le groupe de travail de la société civile ne voit pas d'un bon œil cette présence. Paul Cresson Veninga en est le porte-parole.
Ali Daras venait de massacrer et on nous dit on ne sait pas où est-ce qu'il se trouve, mais pour l'amener et fêter l'an 1 de l'accord politique pour la paix et la réconciliation, on est allé le chercher et il a été transporté par le biais d'un avion pour atterrir à Bangui. Ça montre combien de fois les gens ne sont pas serrés dans ce pays.
Le tissu sécuritaire dégradé en raison de la crise qui a frappé le pays depuis 2012 a contraint le pouvoir de Bangui à conclure le 6 février 2019 cet accord de paix avec 14 groupes armés après d'intenses négociations à Khartoum au Soudan. Freeman Sipila, Bangui pour VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Politique au Cameroun. Les Camerounais sont appelés à voter dimanche pour des élections législatives et municipales en partie boycottées par l'opposition. Un scrutin qui ne suscite guère d'enthousiasme dans un pays où près de 1 million de personnes ont été déplacées par deux conflits meurtriers. Les incursions djihadistes dans l'extrême nord et les attaques des séparatistes anglophones dans l'ouest. Le principal parti d'opposition, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun de Maurice Kamto, adversaire malheureux du chef de l'État Paul Biya à la présidentielle de 2018, n'ayant présenté aucun candidat, le RDPC au pouvoir est quasiment garanti de rafler la mise une nouvelle fois. La formation politique du président Biya possède déjà une majorité parlementaire écrasante à l'Assemblée, 148 sièges sur 180. L'Union africaine se réunit en sommet dimanche et lundi à Addis Abeba en Éthiopie avec pour objectif de faire taire les armes dans les conflits qui affectent encore le continent africain. C'est d'ailleurs le thème de la rencontre annuelle qui va se dérouler en présence des chefs d'État et de gouvernement des 57 pays membres de l'organisation panafricaine. Des progrès ont certes été enregistrés dernièrement en Centrafrique et au Soudan, mais du Cameroun au Mozambique, de nouvelles crises sont venues s'ajouter à celles qui déchirent déjà des pays comme la Libye ou le Soudan du Sud. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui succède à l'Égyptien Abdel Fattah al-Sissi à la tête de l'Union africaine dans le cadre de la présidence tournante, a rappelé que les conflits continuent de limiter le développement de l'Afrique. Le chef de l'État sud-africain a estimé que les objectifs d'intégration économique et de lutte contre les violences faites aux femmes passe par la promotion d'une Afrique sûre et en paix. Guerre civile en Libye maintenant, les belligérants ont fait des progrès en vue d'un accord de cessez-le-feu durable, mais il reste encore quelques points de divergence. C'est ce qu'a indiqué hier à Genève l'émissaire spécial de l'ONU, Ghassan Salamé. Le point avec Nathalie Barge.
Des progrès ont été faits sur de nombreux sujets importants et nous avons devant nous des convergences dans plusieurs domaines, a indiqué Ghassan Salamé au quatrième jour de tractation entre hauts responsables militaires des deux camps rivaux. Les belligérants sont d'accord pour que la commission militaire libyenne conjointe, réunie à Genève, soit impliquée dans le suivi d'un cessez-le-feu sous les auspices de l'ONU, a dit M. Salamé. Confirmée lors du sommet du 19 janvier à Berlin, cette commission doit définir les conditions d'un cessez-le-feu durable avec retrait des positions militaires. L'émissaire onusien a précisé qu'il restait à régler quelques divergences, ajoutant espérer qu'un accord sera possible pendant cette semaine de négociations. Des discussions sont aussi prévues sur le volet économique le 9 février au Caire et sur le volet politique à partir du 26 février à Genève.
Actualité aux États-Unis maintenant, au lendemain de son acquittement par le Sénat américain à l'issue de son procès en destitution, le président Donald Trump a tiré à boulets rouges jeudi contre ses opposants et les a accusés d'être malhonnêtes et corrompus. Les détails avec Eric Manirakiza.
Ce n'est pas une conférence de presse, ce n'est pas un discours, a-t-il lancé d'entrée, précisant qu'il s'agit d'une célébration. Le président Donald Trump a exprimé son amertume avant de remercier sa famille, en particulier sa fille Ivanka et sa femme Melania, pour leur soutien. Depuis les salons de la Maison-Blanche, il a opté pour une tonalité de ses meetings de campagne, une honte, un désastre, des conneries, des menteurs, des vicieux, des méchants, a-t-il martelé. New York Times, Washington Post, j'ai eu tant de titres fantastiques que s'est-il amusé. Le président Trump a aussi pris pour cible le sénateur républicain Mitt Romney, seul membre de son parti à avoir voté pour sa destitution. Si sa mise en accusation restera comme une tache indélébile sur son mandat, son procès a démontré qu'il pouvait compter sur un parti républicain qui fait bloc derrière lui. C'est un atout de taille face à des démocrates qui n'ont pas encore choisi leur candidat pour la présidentielle de novembre prochain.
Alerte au coronavirus pour terminer, des mesures de plus en plus draconiennes sont prises dans le monde pour faire face à l'épidémie de pneumonie virale qui a déjà fait plus de 630 morts en Chine continentale, dont ce vendredi, un des premiers médecins à avoir sonné l'alarme quant au danger posé par le nouveau coronavirus. Plus de 30 000 personnes sont désormais contaminées sur le territoire chinois où un nombre croissant de villes confine des dizaines de millions d'habitants chez eux. Le président chinois Xi Jinping a assuré ce vendredi au téléphone à son homologue américain Donald Trump que la Chine est entièrement capable de juguler l'épidémie de coronavirus. virus.